Pour poursuivre notre service, nous sommes invités à ouvrir la Bible dans le livre des Actes. Acte 3. Acte 3 et le verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. C'est vrai que ça surprend, c'est un texte très court. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir quelqu'un qui nous vient de la belle province, du Canada, plus particulièrement du Québec. Nous avons la joie d'accueillir Daniel, qui assurera non seulement la prédication ce matin, mais la réunion cet après-midi et les deux réunions du dimanche matin. Je vous invite à recevoir avec chaleur quelqu'un qui nous vient de 6000 km et qui a fait ce voyage aussi pour Dame Marie. Merci.
Bonjour à tous. Merci en particulier à vous deux et à mon collègue pour la manière dont vous accompagnez notre louange. J'essaie de vous regarder, de reconnaître certains visages. Je me sens un petit peu ici bien, parce que dans le début des années 82, le comité d'église de Damary faisait partie de ce que j'observais pour mes recherches. Alors, je connais un tout petit peu un autre aspect de votre Église. Que vous dire d'autre, si ce n'est que vous connaissez un petit peu plus à mon sujet quand vous voyez la dimension de mon ordinateur, vous connaissez mon grand âge. C'était une victime de la vie, une de plus. Elle était jeune, pas vilaine, mais déjà veuve avant d'être mère, déracinée. Elle se retrouve dans un pays étranger où tout lui dit qu'elle n'est pas à sa place. Elle n'est pas la bienvenue, évidemment. Elle n'est pas de chez nous. On murmure sur son passage. C'est elle, l'étrangère. Elle vient de l'autre côté de la frontière. Elle vient de la nation ennemie. Les décrets du pays, d'ailleurs, interdisent à des personnes de sa race d'être connues et encore moins adoptées. Elle est le paria. Elle le sait bien, elle se fait petite, elle rase les murs. Elle baisse les yeux. Elle se tient loin des autres. Elle doit cependant vivre. Elle est responsable du seul lien qui lui reste et qui lui donne un peu de sécurité affective. J'existe parce qu'il y a une personne qui a besoin de moi. Alors elle ose sortir pour affronter le mépris des regards de ceux qui ont une situation, une famille, un travail, bref, qui sont bien dans leur groupe. C'est pourtant le printemps. C'est le mois d'avril, le mois ça, la moisson des orges. Alors elle va faire ce que font les plus pauvres parmi les pauvres. Elle va glaner. Glaner, vous savez, ce sont ce que font les fantômes modernes dans les rues de nos villes, ces silhouettes furtives, sans nom, qui vont scruter les déchets, trier l'infect du pas trop abîmé. On les voit quand on ose les regarder, aller de poubelle en poubelle, de mégot en mégot, pour grappiller ici et là, comme les pigeons après la fin du marché, ou les petits chiens ramassant les miettes de la table des enfants. Comment cette étrangère méprisée va-t-elle survivre? Elle est, selon notre langage moderne, elle est résiliente. Elle a cette capacité de maintenir ou de développer un fonctionnement compétent en présence de stress majeur de la vie. Notre jeune veuve s'en va glaner. Elle est toute à son travail de mouette derrière les moissonneurs. Et elle ne sait pas qu'elle est suivie du regard. Et j'aurais aimé que vous sachiez que vous êtes suivie du regard. Et pas de celui de ces caméras du KGB de Damary Lélis qui vous surveille. Celui qui est le défenseur des veuves et des orphelins. Celui qui ne dort ni ne sommeille. Celui qui est touché de nos chagrins et de nos douleurs, la suit attentivement et prépare ses coups à l'avance. Selon les mouvements libres des autres acteurs, il se nomme rédempteur. Ou si vous préférez Goël, selon le nom biblique, le mot hébreu, le plus proche parent, celui qui a le devoir de protéger, de racheter, de réorienter les trajectoires cassées de la vie. Mais il se cache dans le cœur des humains, et leur impulse des désirs du ciel. Il fera écrire plus tard par l'un de ses apôtres, « Il met en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Dans les versions plus modernes, la promesse se lit ainsi : Dieu agit parmi nous, parmi vous, et vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Mais il ne force personne. Il essaie seulement de persuader avec douceur, avec patience, mais avec insistance. Notre jeune veuve ne sait pas lire dans les cœurs. Elle ne voit pas les regards curieux qui se détournent vite gênés. Elle voit la vie, non pas avec ses yeux, mais avec ses tripes. Il y a trop à faire. Il y a ma belle-mère qui m'attend. Elle s'épuise dans l'intensité de son labeur, comme quelques-uns d'entre vous, durant la semaine qui vient de s'écouler. On peut lire son histoire, et voici, de manière un peu plus moderne, comment c'est dit. Elle partit donc et alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva que ce champ appartenait à un tel, le parent de son beau-père. Un peu plus tard, un tel arriva de Bethléem. Il salua les moissonneurs et en leur disant « Que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur te bénisse », répondirent-ils. Alors l'homme demanda au chef des moissonneurs « Qui est cette jeune femme ?» L'homme répondit « C'est la jeune qui vient de l'autre côté de la frontière, celle qui a accompagné sa belle-mère à son retour de l'autre côté. Elle a demandé la permission de glaner derrière les moissonneurs. Elle est venue ce matin et jusqu'à maintenant, c'est à peine si elle s'est reposée. » Alors l'homme dit à la jeune femme « Écoute mon conseil. » Ne va pas glaner dans un autre champ, reste ici et travaille avec mes servantes. Observe bien à quel endroit le champ est moissonné et suis les femmes qui glanent. Sache que j'ai ordonné à mes serviteurs de te laisser tranquille. Si tu as soif, va boire de l'eau dans les cruches qu'ils ont remplies. La jeune femme s'inclina jusqu'à terre et dit à l'homme, « Pourquoi me traites-tu avec tant de bonté et t'intéresses-tu à moi qui suis une étrangère ?» L'homme lui dit, « On m'a raconté comment tu as agi à l'égard de ta belle-mère depuis que ton mari est mort. Je sais que tu as quitté ton père, ta mère, ton pays et que tu es né pour venir vivre au milieu d'un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. J'envoie quelques-uns parmi vous. Je souhaite que le Seigneur te récompense pour cela. Oui, que le Seigneur, le Dieu d'Israël, te récompense abondamment, puisque c'est sous sa protection que tu es venu te placer. » Alors elle lui dit, « Tu es vraiment bon pour moi. Tu me places, tu me donnes du courage en me parlant aussi amicalement, alors que je ne suis même pas l'égal d'une de tes servantes. » L'avez-vous déjà rencontré ? Hier, avant-hier ? Ou étiez-vous trop occupé comme les autres serviteurs de cet homme ? Mais cet homme est vraiment exceptionnel. Il a le regard de celui qui voit avec le cœur. À l'heure du repas, l'homme lui dit, « Viens manger avec nous, prends un morceau de pain, trempe-le dans la vinaigrette. » Ruth s'assit donc à côté des moissonneurs. Maintenant elle est identifiée, maintenant elle existe, maintenant je peux dire son nom. Et lui aussi commence à être identifié, commence à être connu. Maintenant je peux vous rappeler son nom, Boaz. Lui offrit des grains rôtis. Elle en mangea autant qu'elle voulut et lui en resta. Lorsqu'elle fut retournée glaner, Boaz donna cet ordre à ses serviteurs. Laisse-la glaner également entre les gerbes sans lui adresser des remarques. Cet après-midi, on verra cet aspect-là. Vous savez, vous l'avez vu, pour vous qui voulez à tout prix partir et divorcer ou casser la famille, je vais vous donner 4 clés cet après-midi. Pour réussir votre projet. En attendant, il continue, retirer même quelques épis des gerbes et abandonnez-les par terre pour qu'elle les ramasse. Surtout, ne lui reprochez rien. Ruth glana dans le champ de Boaz jusqu'au soir, puis elle battit les épis qu'elle avait ramassés et elle remplit un grand sac de grains d'orge. Elle rapporta le sac au bourg et montra à sa belle-mère tout ce qu'elle avait récolté. Elle avait ramené également le reste de son repas et elle le lui donna. Quelqu'un qui voit avec le cœur. Son nom c'est Boaz. Il ressent. Il a le nez fin, diraient les Québécois. Il est empathique. Il se met à la place de celle qui souffre. Il s'identifie avec elle. Il réfléchit. Il prie. Il connaît son devoir. Il vérifie les archives. Il vérifie les entrées des immigrants. Il vérifie la liste d'églises. Il consulte les diacres. Il essaie de savoir qui n'était pas là ce matin. Son cœur veille. Il a le cœur d'un veillant. Il reconnaît l'occasion favorable. On n'a pas besoin de se faire dire deux fois que quelqu'un n'est pas là ou que quelqu'un est là mais rase les murs. C'est cela le cœur veillant. Actuellement, en Amérique du Nord, ils sont en train de lancer un programme qu'ils appellent Mission Lifeguard, mission des sauveteurs, pour trouver dans l'Église des, en bon français, des spotters. Ceux-là qui ont l'œil acéré, ceux-là qui sont peut-être un peu critiques et qui facilement voient ce qui ne va pas, qui ne savent pas faire le reste, mais au moins ils savent identifier ceux qui sont là, mais l'esprit n'est pas là, le cœur n'est pas là, et qui sont sur le point de partir. Et puis il y a une deuxième catégorie qu'on essaie de former, ce sont ceux qu'on appelle vraiment les sauveteurs, les spotters, peut dire au sauveteur, as-tu remarqué un tel? Et alors eux s'en vont pour empêcher la noyade. On continue ici. Tandis que cet homme appelé Boaz, lui, est attentif, il ne rate pas une occasion, il y a les autres. Qui sommes-nous? À la manière de Boaz ou à la manière des autres? Affairés, ils ont un agenda, des rendez-vous, des obligations, des délais à respecter. Ils ont une famille à nourrir, des enfants à éduquer, une hypothèque à payer, un avenir à dessiner. On n'a pas le temps pour les autres. Après tout, si on devait s'occuper des problèmes des autres, on n'en finirait pas, n'est-ce pas? Non. Moi, je ne le puis pas, dit un autre personnage du texte. Quelqu'un qui est le plus proche parent, le Goël, celui qui a le devoir de racheter, celui qui a le devoir de sauver, celui qui a le devoir de ne pas laisser tomber la sœur ou le frère ou la cousine, le plus proche parent. Non, je ne le puis pas. J'ai trop à faire, j'ai trop de difficultés moi-même. D'ailleurs, comment s'appelle-t-il? On ne connaît pas son nom. D'ailleurs, comment s'appelle-t-il? On ne connaît pas son nom. C'est un anonyme. C'est pour cela qu'un jour le Seigneur dira à quelques-uns, je ne vous ai jamais connu, je ne connais pas votre nom. Vous n'êtes pas sur ma liste. Ah oui, c'est vrai, mais on a fait un tas de choses, oui, mais ce n'était pas mon agenda. Devenir le Goël. Voilà ce que Dieu vous rappelle ce matin. Je l'ai rencontré. Je suis né dans une famille adventiste. J'ai appris à lire la Bible très jeune, très très jeune. Je suis tombé comme Obélix, moi dans une autre potion. Mais j'avais un sale caractère. J'ai été baptisé à l'âge de 15 ans, mais j'ai rencontré le Seigneur vraiment. Moi qui étais toujours premier dans les concours bibliques et tous les jeux de l'époque. Vous vous en souvenez là, ceux qui sont nés au siècle dernier? Bon garçon, toujours bien à l'église. Le plus sérieux des jeunes de l'église, mais j'avais un sale caractère. Ceux qui étaient de ma famille le savaient bien. Comment ça va? Comment vous connaît-on dans cette église? Comment est-ce qu'on vous connaît à la maison? Différence? Et puis j'ai rencontré le Seigneur, vraiment, à l'âge de 16 ans, dans l'année la plus noire, dans l'année où j'étais littéralement abandonné par tout le monde. J'ai rencontré le Seigneur sur le toit de ma maison. Et à partir de ce moment-là, j'ai découvert ce qu'il m'avait toujours donné. La résilience, la capacité de rebondir, la capacité de gérer les stress terribles de la vie et de faire face et de grandir. Voilà de quoi je vous parle ce matin. Dieu vous dit, je veux que tu deviennes le Goël, que tu deviennes le Rédempteur. Que tu puisses devenir comme l'autre, le grand-père des célèbres rois et d'autres prophètes de David. Boaz a eu le privilège de devenir l'ancêtre de celui qui devait venir. Vous vous rappelez du chant? Celui qui devait venir comme le printemps. Celui que l'on attend. Qui êtes-vous dans l'histoire de Ruth? Les passants, les affairés, le plus proche parent, mais qui a trop à faire pour s'en souvenir? Le Seigneur vous propose de devenir un projet pour la vie de l'autre, un plan, quelque chose de précis, un rêve peut-être, une idée formidable, mais qui donne vie, qui donne envie d'en voir la réalisation. J'ai rencontré quelques-uns dans ma vie. Et c'est pour cela que bien des problèmes, bien des soucis, bien des stress, bien des catastrophes, bien des crises ont été surmontés. Parce que j'ai croisé le chemin de ceux qui avaient la parole prophétique, de ceux qui avaient le regard pour reconnaître derrière mon sale caractère, derrière ma spécialisation de trouver le mot exact qui tue. Je pense à Gaëtan. Peut-être est-il dans la région ici. Il a quitté l'île Maurice depuis 45 ans. Gaëtan, c'est la première personne que je sais consciemment avoir assassinée. C'était peut-être pas un assassin, j'avais pas prévu, mais c'était un meurtre. Il était connu comme le soleil du village où j'habitais. Et puis un jour, pendant que l'on jouait au football, il s'est moqué de moi. Et j'ai lui répondu du tac au tac ce qu'il fallait. J'ai vu son visage littéralement se fermer. Et depuis ce jour jusqu'à son départ pour la France, il était complètement changé. Mes paroles acérées l'avaient complètement tué. Cependant, l'Éternel a eu compassion de moi. Et lorsque, 8 ans après mon mariage, on parlait divorce, j'ai commencé à un tout petit peu me rendre compte qu'il ne suffit pas d'avoir étudié la théologie pendant 4 ans et devenir pasteur. Il fallait autre chose. Alors je suis revenu en France et ça m'a pris 6 ans. 6 ans pour quoi faire? Un jour, ma femme m'a dit, je ne t'aime plus. Si seulement elle avait dit, je t'ai jamais aimé, je lui aurais dit, ou peut-être j'aurais pensé, la garce, l'hypocrite, a fait semblant de m'aimer. Elles sont comme ça, vous savez, hein, les femmes, vous les connaissez, n'est-ce pas? Mais non, je ne t'aime plus. On reviendra peut-être là-dessus cet après-midi. Je l'aimais de tout mon cœur. Elle m'avait posé la question, dans quel ordre tu mets ça? Moi, l'Église, Dieu? Et bien évidemment, vous savez comment je suis, un excellent pasteur. Dieu d'abord, Yolaine, l'Église en second, et puis toi en troisième. Je suis parti pour une colonie de vacances, préparer la colonie et puis le retour 5 semaines loin de la maison. Puis je suis rentré, il est 23h, fatigué, crevé, vous avez besoin de dormir, parce que le lendemain c'est le début d'une campagne d'évangélisation. Vous savez comment on est quand on est bon pasteur, n'est-ce pas? On est au service des autres. Alors elle m'attend à la maison. J'arrive. Elle a les mains sur les hanches. Elle ne parle pas. Elle me tend une enveloppe épaisse. Je sais. Quand Yolaine écrit, il faut faire gaffe. Quand une femme de pasteur parle à son mari pasteur, en principe le pasteur, en particulier Pascal, on sait avoir le dernier mot. Peut-être Bernard aussi, je ne sais pas. Alors elle écrit, et quand elle écrit, ça fait mal, ça fait mouche. Je prends, mets dans ma veste, je m'en vais prendre un bain chaud, je vais me coucher, on s'endort comme une souche. Je me réveille le lendemain et je repars pour un mois d'évangélisation. On est pasteur après tout, on est au service du Seigneur. On est le sauveur des autres. Quelques mois plus tard, lorsqu'elle me redit à nouveau, je ne t'aime plus. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. L'enveloppe, je ne l'avais jamais ouverte. 16, 17 ou 18 pages. Elle me disait de bonnes choses. Et vous sentez ici, là? ce qui se passe là. Quand il se passe quelque chose là et qu'il y a un nœud là, ça veut dire que mon lobe préfrontal est en train de fonctionner. Je peux avouer, chaque fois que je confesse ces choses, je grandis. Elle me rappelait à mon devoir de père, de famille, de prêtre et de toutes sortes de choses. Et combien elle a besoin de moi, combien les enfants ont besoin de moi. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Bien sûr, pas devant elle, bien sûr, pas devant les enfants. Il faut garder une petite gêne, comme on dit au Québec. Mais le long des quais, le soir, pendant des heures. Avoir mal, mal jusque dans les os. Celle que vous aimez de tout votre cœur, vous êtes en train de la perdre. Celle que l'on appelle princesse et que l'on a éteint petit à petit pendant des années, à force d'être le sauveur de tous les autres, sauf de son conjoint et de ses enfants. Devenir, voilà ce que le Seigneur veut nous dire. Voilà la bonne nouvelle, une offre inouïe. Si la création a été magnifique, dit-on en théologie, la rédemption sera beaucoup plus grande. Si la chute a été catastrophique, la restauration sera un émerveillement pour tout l'univers et tous les multivers. On passe d'un état de jouet cassé à celui de fabricant de jouets. On passe de blessé à médecin de l'âme. De victime de Satan, on devient bienfaiteur au nom de l'Éternel. De paria de la société à ambassadeur de Christ. De pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes. Voilà ce que Dieu vous rappelle ce matin. Devenir un agent de transformation. Avez-vous connu des noyades ? Ou des risques de noyade? Avez-vous connu ces tempêtes dans votre vie? Avez-vous affronté ces moments de stress énormes où vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous? Le Seigneur vous dit que vous pouvez être Boaz, un Goël, un proche parent, même s'il n'y a pas de relation, même si c'est une étrangère, même si c'est quelqu'un qui est totalement différent de vous. Mais les cœurs se ressemblent. Et on se reconnaît quand on regarde bien par rapport à ce que le Seigneur veut que nous soyons. Il faut apprendre la compassion. La compassion, c'est lorsque l'on se sent faible, lorsque l'on est impuissant. Là fonctionne automatiquement la compassion. Un de mes professeurs, Stephen Stosny, a travaillé avec les violents, les plus violents des violents dans les prisons de haute sécurité aux États-Unis. Comment amener ces hommes à apprendre, à aimer, à s'adoucir et à comprendre? Il va chercher leur compassion. Et vous trouvez la compassion de quelqu'un quand ce quelqu'un accepte de reconnaître son impuissance. Je veux vous parler de la capacité de changer de trajectoire. On parle beaucoup de résilience. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que la résilience? Eh bien, c'est la capacité de faire face à des stress majeurs de la vie sans s'écrouler. C'est la situation de beaucoup de nos jeunes. C'est la situation de beaucoup de nos familles. C'est la situation de beaucoup de couples. C'est malheureusement la situation de la majorité de nos églises. Je l'affirme, c'est la situation de la majorité de nos églises, en situation de noyade. Il y a urgence quand la capacité de rebondir diminue à vue d'œil, et cette capacité n'est pas innée, mais elle est acquise quand on grandit dans une atmosphère de relations sécurisantes. C'est très clair aujourd'hui en ce qui concerne les études de la neurologie immunitaire. On sait qu'on est capable de grandir. Depuis 1981, c'est très clair aujourd'hui pour les coachs, les entraîneurs des sportifs de haut niveau. on les apprend à visualiser la course 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, pour s'inscrire dans le cerveau, la course. Et vous voyez comment ils sont avant de s'élancer pour un 100 mètres. Ils sont à l'intérieur. Et à chaque fois qu'ils le font, ils grandissent. On a dit quand j'étais jeune que toutes les cellules peuvent se renouveler, sauf les neurones. C'est faux, on le sait aujourd'hui. On crée de la matière grise. Ce que Dieu nous a donné là, c'est une capacité infinie de rebondir. Et c'est cela, la grâce du Seigneur en nous. C'est cela, la présence du Saint-Esprit en nous, qui met l'œuvre de la croix, qui actualise l'œuvre de la croix dans notre vie, afin que nous puissions, nous, à notre tour, sauvés par lui, devenir sauveurs pour les autres. De plus en plus, dans nos églises, il y a un bon moment le sabbat matin. Sauf pour les rites que l'on ne remarque pas. Êtes-vous dans la joie ce matin? Faux. Pour quelques-uns. Mais comme la majorité a dit lorsque j'étais jeune enseignant, je me rappelle bien, je détestais cette manière des autres professeurs qui disaient « Alors, est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur !» Mais il n'a rien dit, lui. On a entendu son silence. Il est absolument important pour nous de développer l'œil et l'oreille afin de devenir le sauveur de notre propre famille. Parce que Dieu nous dit que les circonstances adverses dans la vie des plus jeunes sont prédicteurs. 7 fois plus que les autres de divorce, 4 fois plus d'obésité, 5 fois plus de maladies cardiovasculaires. Et je passe sur tous les autres. Les circonstances adverses affectent le cerveau des tout-petits, mais aussi de ceux qui sont un peu plus grands, mais affecte aussi le cerveau de quiconque. C'est fragile. Attention, touche pas. Je suis fragile. Ne me traite pas n'importe comment. Mais à force de rencontrer des circonstances qu'on ne peut pas éviter aujourd'hui, où est-ce qu'on va trouver la force pour pouvoir résister et grandir et développer de plus en plus cette résilience en nous? Il faut absolument vivre dans une atmosphère sécure, affectivement parlant. Voilà pourquoi Dieu nous a donné cette capacité d'apprentissage et de grandir, quel que soit notre âge. Et quelle est l'institution, nous disent les spécialistes, qui est la mieux armée pour protéger, pour faire grandir, pour donner un espace où celui qui est en train de se noyer puisse passer du risqué de la noyade à sauveteur? Il faut que cette institution ait une claire vision de sa mission. Il faut que cette institution a des valeurs profondes. Il faut que cette institution ait un système de croyances bien précises. Il faut que cette institution ait des ressources humaines et des gens compétents. Connaissez-vous cette institution-là? Il y a une seule qui ressemble à toutes ces catégories-là, elle s'appelle l'Église. Et la plus petite Église commence là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis en mon nom, dit le Seigneur. Alors l'Église n'est-elle pas d'abord la famille? Et dans cette Église-là, il y a un système de croyances, il y a un encadrement, il y a des ressources humaines, il y a des gens compétents, il y a certains qui ont entendu je ne sais combien de centaines de prédications, étudié combien de centaines de leçons de l'école du sabbat, ont appris dès leur jeune âge à chanter, à jouer de la musique, à parler en public, ont été à travers des organisations bien structurées qui apportent une sécurité à l'enfant. Soit qu'on appelle les tisons, les explos et tous les autres. L'Église a tout cela. Et pourtant, je vous l'ai dit, de mon point de vue, la majorité des églises sont en train de se noyer et de laisser noyer les plus petits, les cassés de la vie. Parce que on ne veut pas reconnaître que l'Église, ce n'est pas ce qui se passe le sabbat matin. Ce qui m'inquiète le plus, ce n'est jamais ce qui se passe le sabbat matin. Ce qui m'inquiète, c'est de savoir dans les 56 églises et groupes à Québec, comment vivent les 7300 membres entre les deux sabbats. Comment vivent-ils dans les familles? Comment vivent-ils quand ils sont en voyage? Comment vivent-ils quand ils sont à l'école? Comment vivent-ils quand ils sont cassés par les autres? C'est de cela dont il s'agit. Quand on parle du ministère de la famille, on est en train de parler de rien d'autre que de donner la capacité au cerveau de chacun de faire l'expérience de la croissance. Beaucoup de maladies chroniques des adultes sont déterminées dans l'enfance, non à cause des maladies de l'enfance, mais à cause des événements de la petite enfance. Cela se passe un peu de la manière suivante. Des circonstances adverses, une rupture du neurodéveloppement. Ensuite, des dommages que l'on a pensé jusqu'ici impossibles à réparer dans le domaine émotionnel, social, cognitif. Et puis ensuite, ces jeunes adoptent tout à fait naturellement des comportements à haut risque. Parce que c'est là où on ressent, c'est là où il y a l'adrénaline, c'est là où j'existe enfin. Ne me demandez pas de cesser de prendre de la drogue, parce que avec eux, quand je n'ai pas d'argent, on me donne. Dès que j'arrive, on me tend un joint, on m'accueille, c'est mon groupe. Je suis bien, je ne suis pas jugé là-bas. Vous, les bien vêtus, les bien rasés, vous ne savez pas combien je suis bien là-bas. Ou combien je suis bien dans ses bras à lui. Oh, je sais bien qu'il a d'autres dans sa vie. Mais quand je suis avec lui, je me sens en sécurité. J'existe. Vous allez dire que je confonds l'amour avec le sexe, mais que voulez-vous ? Dit la jeune fille. Je pense que si je me donne à lui, il m'aimera. Ou au moins pendant l'espace d'un instant. J'aurai l'illusion du réchauffement dont j'ai besoin, parce qu'il fait froid chez moi. Et tout cela amène à une mort précoce. Un quart des jeunes qui meurent, meurent de maladies mentales. Ils mettent fin à leur vie. Au Québec en particulier, c'est le premier pays au monde. Oh, ils seraient contents les Québécois si je dis un pays. Premier pays au monde à avoir le maximum de suicidés chez les mâles de 8 à 32 ans. Régulier. Pourquoi ? La famille n'existe plus au Québec. Vous voyez partout, c'est le pays probablement où il y a le plus de liberté, en particulier pour les femmes. Les suicides sont nombreux. Les familles sont composées, recomposées, décomposées. Le Seigneur a dit, je fais retomber sur les enfants et les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération, la malédiction de ceux qui me désobéissent. Mais j'apporte la bénédiction jusqu'à la millième génération. Comment est-ce que l'Église peut faire passer les gens de cette trajectoire cassée et passer vers l'autre génération? De Romains chapitre 7. Chaque fois que je veux faire le bien, je ne peux pas, je suis surmonté. À Philippiens, je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà le projet de l'Église, voilà ce que vous avez entre vos mains. Vous comprenez pourquoi j'ai fait lire tout à l'heure ce court texte? Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Avez-vous rencontré Jésus? Je suis sûr que vous l'avez rencontré. N'avez-vous pas Jésus? N'êtes-vous pas du bon côté? Vous n'êtes pas sans Christ, vous êtes en Christ. Peut-être du côté charnel, mais en Christ quand même. S'il vous arrive de pécher de temps en temps et de tomber, relax, c'est naturel, c'est votre nature. Ne soyez pas déçus par trop d'avoir péché. Vous êtes naturellement de double nature maintenant. Le vieil homme est encore là, mais le Seigneur Jésus n'est-il pas venu se greffer sur vous? Ne dit-il pas « Demeurez en moi et je demeurerai en vous et vous porterez des fruits » Qui pourrait dire aujourd'hui « Mon trajectoire a mal commencé, j'ai épousé celui qu'il ne fallait pas, j'aurais dû écouter maman, et puis c'est trop tard, et puis ceci, et puis cela, et puis quand j'avais 5 ans, comme cette dame que j'avais rencontrée, j'ai été abusé par celui en qui j'avais le plus confiance, par cet adulte que j'aimais, que j'admirais. » C'est vrai. C'est vrai, c'est cassé là-dedans. Mais là-dedans, il y a la capacité de rebondir, il y a la capacité de faire des pontages. C'est absolument clair aujourd'hui, absolument clair. On est capable, par la grâce de Dieu, de se reconstruire et de développer d'autres parties. On connaît même aujourd'hui, en particulier chez certains aveugles, ils sont capables de voir. Parce que c'est les mêmes zones. C'est une science que l'on développe de plus en plus. On est persuadé que le cerveau d'un sourd peut entendre un beau paysage en regardant un beau tableau, entendre la musique de ce tableau. Je suis sûr, en tout cas c'est mon rêve, qu'au ciel, lorsque je verrai quelque chose de beau, j'entendrai quelque chose de beau, parce que les zones du cerveau peuvent s'interchanger. Il y a une musique de ce qui se voit, il y a une vue de ce qui s'entend. Le Seigneur nous réserve des choses exceptionnelles, mais déjà maintenant, cassés comme nous sommes, on peut dire comme Pierre, « Moi j'étais pêcheur de poissons, mais maintenant je suis pêcheur d'hommes. J'avais un certain nombre de choses, mais maintenant je ne compte plus là-dessus. Maintenant, je te dis, je n'ai pas grand-chose à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. » Je peux te donner du temps, je peux te donner mon attention, je peux te donner mon sourire, je peux croire en toi, parce que je crois en Dieu. Ce n'est pas trop tard, recommençons ensemble. C'est cela, la famille. Je suis dans ma 43e, 42e anniversaire d'année de mariage, ma femme aussi d'ailleurs, et nous sommes revenus en France pour étudier, et dans la vanité et l'orgueil de mon cœur, j'ai choisi d'aller dans le doctorat d'État, qui existait avant 85. Ces doctorats où, je ne sais pas si Bernard se souvient, le pasteur architecte avait fait son doctorat en 22 ans. Vous savez, ce genre de doctorat qui prend des années et des années, afin que vous puissiez devenir peut-être un jour titulaire de chaire à l'université. Mais en fait, ce n'était pas vrai, ce n'était pas pour ça. Je revenais pour regagner ma femme. Tu m'aimes plus ? La vengeance est un plat qui se mange froid. Tu finiras par me dire je t'aime. Il m'a fallu 2 ans. Mais il m'a fallu encore 4 ans pour croire que c'est vrai. Tellement nous étions cassés tous les deux. Vous savez comment c'est quand une femme ne se sent pas aimée ? Elle n'est pas belle. Elle croit qu'elle n'est pas belle. Il a fallu que j'apprenne à la rendre belle et qu'elle finisse par accepter qu'elle est belle. Aujourd'hui, il fait bon vivre dans mon foyer. Je suis un homme libéré. Je n'ai pas à prendre soin de moi-même. Elle s'occupe de tout. Elle n'a pas à prendre soin d'elle. Je m'occupe de tout. On poursuit le voyage.